Nous allons reprendre Luc 5. En 1989, l'Union soviétique est tombée. Et je me souviens de ces jours, c'était le jour de mon mariage. Et je me souviens de ces premiers mois avec Nikki. On avait une toute petite télévision et on regardait les actualités. On était ébahis de voir le changement qui venait dans cette grande nation. Et aussi à cette époque, un homme qui s'appelle Václav Havel est devenu président de la Tchécoslovaquie. Alors Václav Havel était plutôt un écrivain de pièces de théâtre, mais un homme qui avait un but politique aussi en écrivant ses pièces. Il est devenu renommé dans le pays avant que donc le bloc communiste tombe, et c'est pièces de théâtre lui ont valu 2 sentences en prison, parce qu'il parlait contre les abus et les injustices du communisme. Pendant une de ces sentences en prison, je crois que c'était la deuxième, il a commencé à écrire chaque semaine une lettre à sa femme. Il en a écrit 14 lettres. Ça peut vous dire la durée de cette sentence. Il était là pendant presque 3 ans cette fois. Et il a pu surmonter assez rapidement les difficultés, les peines, les douleurs physiques de la prison. Mais ce qui était beaucoup plus difficile, c'était les problèmes existentiels, les problèmes de l'âme. Et il dit plus tard, après sa sortie, il est devenu président du pays, après cela, mais il dit que la rédaction de ses lettres est devenue son moyen de survie dans la prison, que c'était très très important. C'est ça qui le poussait en avant. Et il était obligé de rentrer en lui-même et de penser aux questions les plus ultimes de la vie. Pourquoi est-ce que je suis là? C'est quoi l'humanité? C'est quoi l'âme? Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Et qu'est-ce que je suis? Comment est-ce que je dois vivre? Et pendant ces semaines, ces mois et ces années, il est arrivé à un point où il est devenu de plus en plus convaincu que la clé de l'identité humaine, c'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité. Et il est presque arrivé à la vérité chrétienne de l'appel, de l'existence comme une réponse à celui qui appelle. C'est pourquoi je vous ai lu le psaume 50. Dieu convoque toute la terre, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Notre identité, c'est que nous avons été créés pour répondre à Dieu, pour répondre à son appel. C'est pour cela que dans le Nouveau Testament, la Bible parle beaucoup de l'appel. Par exemple, le salut est identifié comme un appel. 1 Corinthiens 1, Dieu n'a pas appelé beaucoup parmi les riches ou les puissants, mais il a appelé ceux qui ne sont rien. Et cet appel, c'est une manière de parler du salut. Parfois, l'appel dans le Nouveau Testament se réfère à donc une vocation spéciale. L'appel à devenir prédicateur, comme Simon, ici. Nous recevons tous l'appel essentiel dans le salut, nous qui sommes croyants, mais nous avons tous des appels secondaires qui sont différents. Et dans l'épître de Philippiens, chapitre 3 et les versets 12 à 14, ne tournez pas, je suis juste en train de vous donner quelques pistes autour de cette idée de l'appel. Paul regarde toute sa vie chrétienne comme le fait de répondre à un appel. Regardez bien. Et rappelez-vous bien que quand je dis l'appel de la vie chrétienne, l'appel premier, ça veut dire que Dieu vous appelle en vous appelant à lui. Il vous appelle à quoi? Il vous appelle à être complètement dans tout ce que vous êtes et à tout moment et en toute activité complètement à lui et complètement pour lui. Et de faire tout ce que vous faites, que ce soit de manger, de boire, de faire tout pour répondre à lui, pour le glorifier, pour le servir. Ce qui veut dire que toute la vie devient sacrée. Parce que dans tout ce que vous êtes en train de faire, il y a l'appel de Dieu à le faire pour lui, en lui, sous ses yeux et par sa force. Ça change la vie. Mais Paul le dit de cette manière. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. La traduction n'est pas très heureuse. Il dit plus littéralement, je tâche de saisir ce pourquoi j'ai été saisi. C'est ça, l'appel et la réponse. D'abord, j'ai été saisi par Jésus-Christ, et deuxièmement, je réponds en essayant de saisir toute ce caractère, ce service chrétien pour lequel j'ai été saisi. Il continue en disant, en utilisant même le mot. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. C'est le mot appel. De remporter le prix de l'appel céleste, de l'appel vers la vie céleste que Dieu me donne en Jésus-Christ. Il m'appelle à ne pas être terrestre, être confiné dans le péché, dans la chair, mais il m'appelle à devenir un homme du ciel. Voilà, donc c'est pour vous dire que l'appel est une manière très très importante de comprendre la vie chrétienne. Si vous ne comprenez pas la vie chrétienne à travers l'optique de l'appel, vous allez faire des erreurs. Par exemple, un exemple. Il y a des croyants qui regardent la vie chrétienne à travers l'optique de la loi. Ils voient la vie chrétienne comme une réponse à une loi. Ce n'est pas faux, mais comme c'est incomplet, une loi n'est pas un appel. Une loi est impersonnelle, n'est-ce pas? Un appel est une relation personnelle. Il est facile de tomber dans une stérilité légale, légaliste. Il y a des gens qui tombent dans le piège de voir la vie chrétienne comme un accomplissement, d'arriver à un truc. Mais encore là, c'est plus égoïste. C'est ce que moi j'arrive à faire. Alors que l'appel, je suis par rapport à Dieu. C'est lui qui est au centre. C'est lui qui dit, qui veut, qui cherche, et moi je ne suis que le répondant à lui. Donc, de voir la vie chrétienne comme un appel glorieux, c'est le voir tel qu'il est, tel qu'elle est. Et nous voulons découvrir un peu aujourd'hui, et je vais parler très rapidement de l'appel. Ici, dans cet incident avec Simon-Pierre, nous voyons plus un appel au service. Et puisque nous devons tous servir le Seigneur, cet incident est gardé et mis par écrit pour nous. OK? Nous n'étudions pas un texte, je ne me lâche jamais de vous dire ça. Nous voulons vivre, nous voulons entrer dans la réalité de ce qui s'est passé ce jour. OK? Et nous devons à notre tour vivre ce que Simon-Pierre a vécu ce jour-là, même si nous ne le vivons pas de la même façon exactement. OK? Pourquoi est-ce que Dieu a laissé cet incident dans la Bible? Nous voulons comprendre trois choses en rapport avec l'appel de Dieu. D'abord, le premier point, c'est que quand Dieu vous appelle à son service, il vous appelle à un monde où sa puissance surnaturelle règne sur la faiblesse et l'incapacité humaine. Ok, donc écoutez bien, Dieu vous appelle à entrer dans un monde où c'est sa puissance surnaturelle qui œuvre en vous, avec vous et par vous pour accomplir son dessein. Ok? C'est une affaire de puissance d'un autre monde. Maintenant, nous voulons regarder dans le texte comment cela est évident. Nous lisons dans ce texte que ce jour-là, Jésus se trouve à la mer de Galilée. La mer de Galilée est un grand lac. C'est un peu comme le lac autour de Lausanne et Genève. C'est un lac de 21 par 11 kilomètres. C'est pour ça que les gens de l'époque l'appelaient aussi la mer de Galilée, parce qu'on voyait pas l'autre bout. C'est un lac qui est quelques, je crois, 45 mètres à peu près de profondeur. Oui, j'écris à certains endroits. Et Joseph Flavius, Joseph, l'historien du premier siècle, qui est né l'année de la mort de Jésus, donc à peu près un contemporain de Jésus, a dit qu'il avait vu plus de 300 barques de pêcheurs sur le lac à un même moment. Il faut savoir que le métier de la pêche à la mer de Galilée dans le premier siècle était parfois une entreprise lucrative. Nous lisons dans les Écritures, dans d'autres évangiles, que par exemple, les fils de Zébédée et leur père avaient des employés. Que lorsque les fils de Zébédée ont quitté pour suivre Jésus, dans l'autre texte, dans un autre évangile, il dit, ils ont quitté leur père et leur serviteur. Donc, il y avait une entreprise familiale qui était probablement une entreprise qui à laquelle Simon Pierre et son frère appartenaient aussi. Parce que ce jour-là, on voit les deux barques qui travaillent ensemble, n'est-ce pas? Donc, il y avait les fils de Zébédée qui sont devenus apôtres, Jean et Jacques. Il y avait Pierre et son frère, il y avait le papa de Jean et Jacques, et il y avait des serviteurs dans cette entreprise. Ce jour-là, vous pouvez imaginer la scène, ils ont pêché toute la nuit, parce que pour les pêcheurs sur cette lac, ils savaient bien que souvent, la meilleure pêche se fait la nuit. Donc, ils ont passé la nuit sur la mer. Ils sont revenus le matin et ils n'avaient rien pris, absolument rien. Cela arrive, tout pêcheur le sait, mon père était un grand pêcheur, je détestais aller avec lui quand j'étais enfant parce que j'étais trop impatient. Si j'avais pas un poisson au bout du fil après 5 minutes, c'était trop lent pour moi. Mais mon père pouvait rester des heures sur le lac. Il aimait ça. Le samedi, le week-end, quand il ne travaillait pas, et même s'il ne prenait rien, c'était pas grave. Mais pour un pêcheur professionnel, c'est grave. C'est grave, parce que c'est son gagne-pain. De toute façon, Pierre et ses amis n'avaient rien pris toute la nuit. Jésus est arrivé, et quand vous lisez ce récit, vous avez peut-être l'impression que c'est la première fois que Jésus et Pierre se rencontrent, et Jésus l'appelle tout de suite. Il n'en est rien. Si vous lisez bien vos évangiles, vous savez que Jésus a déjà rencontré Pierre en Judée, c'est-à-dire au sud d'Israël. Ils sont auprès du lac de Galilée, au nord d'Israël en ce moment, près de la maison de Pierre. Mais dans Jean chapitre 1, nous voyons que la première fois que Pierre rencontre Jésus, c'est en Judée, probablement en temps de fête, de festival religieux à Jérusalem. Et nous savons que Pierre a eu affaire avec Jésus plus d'une fois dans les évangiles avant d'arriver à Luc chapitre 5. En fait, probablement, Jésus est en train de loger chez Pierre. Parce que dans le chapitre précédent, donc nous voyons au verset 38, en sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et le prière en sa faveur s'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Jésus avait dû quitter sa ville et donc à un moment donné de Nazareth, pas bien accueilli là, il fait de son siège Capernaum, donc la ville de Simon-Pierre. Donc, Pierre est déjà devenu, avec quelques-uns de ses amis, dont nous lisons les noms en Jean chapitre 1, sont devenus des adeptes, en quelque sorte des disciples de Jésus. Ils ne suivent pas Jésus, c'est-à-dire ils n'accompagnent pas physiquement Jésus, pas encore. Jésus donc vient de rentrer en Galilée et il retrouve Simon ce jour-là. Nous ne savons pas depuis combien de jours il est revenu, mais lorsqu'il voit les barques de Jean et Jacques et de Pierre, il sait très bien de qui il s'agit et c'est justement pour eux qu'il est venu ce jour-là. La prédication aux foules, c'est secondaire. Ce qui arrive ici dans cet incident par rapport à trois hommes est essentiel. D'accord? Maintenant, avec cet arrière-plan, je redis le premier point, c'est que quand Dieu nous appelle, nous, à lui, à son royaume et à son service, il nous appelle à un monde où c'est la puissance surnaturelle de Christ qui entre dans nos vies, qui agit en nous et à travers nous, pour faire ce qui est humainement simplement impossible. Maintenant, lui lisons les versets 4 et 5. Lorsqu'il eut cessé de parler, la prédication est finie, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, certainement avec un peu de frustration. Après tout, c'est un pêcheur maître. Et Jésus n'est qu'un charpentier. Je connais, on entend un peu dans sa réponse, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » On sait ce qu'on fait. C'est nous les pêcheurs. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Me dire d'aller dans les eaux profondes, là, quand je viens de là, et j'y ai passé toute la nuit. On entend cette presque exaspération. Qu'est-ce que t'en sais? Je suis bien fatigué, je suis lassé, on a eu une mauvaise nuit, et maintenant tu me dis de rentrer, là, toi le charpentier. Mais il dit, il ne s'arrête pas là. Il exprime son sentiment, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Jésus ne bouge pas. Et il enchaîne, mais sur ta parole, puisque tu le dis, je jette les filets. Pierre est tout simplement devant une impossibilité, une impasse. Il est impossible qu'il attrape des poissons ce matin-là, humainement parlant. Et Jésus, sans aucun doute, orchestre cet événement dans sa providence, et sans aucun doute, c'est le Dieu de la providence qui a fait que Pierre et ses amis n'ont rien pris toute la nuit. Parce que Dieu voulait mettre Pierre justement dans cette situation où toutes les ressources à sa portée ne pouvaient rien accomplir ce matin-là. Et pourtant, Jésus lui dit, avance et lance le filet. Et il faut que vous compreniez que le Seigneur a orchestré cet événement pour correspondre exactement à ce que Pierre allait vivre constamment en tant qu'apôtre, en pêchant les âmes. Pierre doit constamment penser en arrière à ce jour et à ce qu'il a appris. Il sera devant des gens qu'il ne peut pas humainement attraper par sa prédication parce qu'ils ne veulent pas de l'évangile. L'âme ne veut pas de Dieu, naturellement. Et Jésus dit, va lui dire encore et encore, lance les filets. Et nous aussi, lorsque nous avons tenté de gagner des gens au Seigneur, et nous pouvons dire, Seigneur, mais nous n'avons rien pris. Nous n'avons rien pris. C'est là à ce point que nous pouvons comprendre ce que c'est que le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est lorsqu'il y a une invasion dans notre monde, limitée par nos ressources humaines, une invasion d'une puissance surnaturelle, n'est-ce pas ? Qui peut faire que l'impasse et l'impossibilité humaine devient une merveilleuse réussite. Il avance et nous lisons ce qui s'est passé là, ce jour-là, c'était époustouflant. C'était effrayant, même. De grands hommes forts sont tombés à genoux, complètement épouvantés par ce qui s'est passé ce jour-là. Le texte nous dit ceci. Léon jetait, verset 6, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point où elles enfonçaient. Vous pouvez imaginer. Ils prenaient les poissons des filets aussi vite que possible, mais il y avait des dizaines et des vingtaines et des centaines de poissons. Ils étaient des pêcheurs expérimentés. Ça n'arrive pas. Ça n'est jamais arrivé. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas normal. Et ils prennent les poissons, ils sont débordés, ils sont presque paniqués. Paniqués de joie et de débordement. Les autres viennent, et eux aussi, ils prennent autant que possible, jusqu'au point où les deux barques s'enfoncent et risquent de couler. J'aimerais bien que Luc nous dise comment ils sont arrivés à terre. Est-ce que les gars, les fils de Zébédie et Pierre sont sortis de leur bateau afin que les bateaux soient allégés? Et est-ce qu'ils les ont poussés carrément en nageant jusqu'à terre? Ou bien est-ce qu'ils ont enlevé quelques poissons? Ou bien est-ce que Jésus a dit tout simplement, ne vous en faites pas, je m'en occupe. Et surnaturellement, tout comme il a fait en sorte un jour que Pierre marche sur les eaux et ne s'enfonce pas, Jésus a fait miraculeusement en sorte que les barques qui normalement auraient dû couler restent quand même à la surface, jusqu'à terre. Nous n'en savons rien parce que ce n'est pas important. Mais je veux que vous vous mettiez dans cette scène qui est réelle, qui s'est passée et qui a complètement épouvanté. Et Pierre dit, tombe au genou de Jésus. Il est complètement effrayé et dit, Seigneur, retire-toi de moi! Pourquoi? Parce qu'il sait que la puissance d'un autre monde, qui n'est pas comme ce monde du tout, est entrée. Il sait que cet homme est autre. Il sait qu'il a rencontré le Seigneur. En fait, il change de mot. Au début, il dit « Maître, nous n'avons rien pris. » Et ensuite, il dit « Seigneur, quand il tombe à genoux. » Il est très important pour nous de comprendre cela. Parce que Dieu nous appelle dans cette implantation d'église à faire l'impossible. Comme il a demandé à Pierre. De faire ce qui est tout simplement pas possible à vue humaine. Mais il était tellement facile pour le Christ vivant. Il est tellement facile pour lui. D'attraper des dizaines, des centaines d'hommes par nous. Et pensez au jour de la Pentecôte. Au jour de la Pentecôte, Pierre a attrapé 3000 hommes par une puissance infiniment plus grande que celle qui était déployée ce jour-là. Après, attraper des poissons simplement en les faisant venir géographiquement par la puissance surnaturelle du Dieu qui contrôle toute la nature, c'est une chose. Mais changer le cœur de Pierre de 300 hommes qui venaient de crucifier le Christ il y a 10 jours et qui disent « Que devons-nous faire ?» et qui affichent publiquement qu'ils se font baptiser ce jour-là devant le public. C'est incroyable. Il y a une puissance qui est inimaginable, qui est l'effet du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est une invasion. C'est une invasion dans ce mode d'existence, d'un autre mode d'existence, d'un autre monde, avec une puissance complètement différente. Deuxième point, et vous pouvez comprendre bien pourquoi nous devons revenir comme Pierre constamment à cette leçon. Dans nos prières avec foi, qu'est-ce que Christ est capable de faire pour cette implantation de l'Église? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Le deuxième point, c'est que quand le Seigneur nous appelle à lui-même, à son royaume et à son service, il nous appelle à un monde où c'est son plan souverain, son dessein, qui contrôle et détermine notre identité et notre avenir. Dans le premier point, je vous ai parlé d'un monde où c'est sa puissance, et maintenant, je parle d'entrer dans un monde où c'est son plan et son dessein qui règle notre direction, notre identité et notre avenir. Maintenant, regardez bien le passage. Nous relisons le verset 4 et 5. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Je n'aime pas ce plan. Je n'aurais jamais pensé à un dessin comme ça. Maître, nous n'avons rien pris toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, selon ton plan, je jette les filets. » Et nous voyons le reste. Ce jour-là, ce n'est pas Pierre et les fils de Zébédée qui vont chercher Jésus. Jésus les a cherchés. Il avait un dessein qui dépassait de loin la simple pêche des poissons. Parce que c'est ce jour-là que Jésus appelle ses hommes à quitter la pêche comme métier et devenu des pêcheurs d'hommes. C'est ça, n'est-ce pas? Il dit, à partir de ce jour, désormais, tu auras un autre métier. Parce que le royaume de Dieu, c'est le royaume, c'est le règne. C'est moi qui dis maintenant. C'est mon plan, c'est mon dessein qui règle ton sort. Jusqu'ici, tu avais tes petits plans humains au sujet de ta survie. Alors je te dis, il y a quelque chose d'immensément plus grand. Et ce plan et ce dessein dans lequel Jésus fait entrer Pierre dans son plan aujourd'hui est imagé et symbolisé par cette grande pêche qui symbolise quoi? Que Dieu a un dessein de prendre une multitude d'un pêcheur perdu et de les sauver. Elle les a amenés dans sa famille. Dieu a un grand dessein. C'est un dessein incroyable. Et il fait entrer Pierre et nous dans ce dessein. On est parti. Ça nous dépasse. Tout comme le plan de Jésus pour ce jour-là et pour les poissons dépassait Pierre. Il n'avait pas pensé à ça. Il n'avait pas voulu cela. Ça ne lui semblait pas logique. Pour lui, c'était pas le moment de faire un truc comme ça. Mais tout cela n'a aucune importance. Et si vous allez vivre avec Christ, vous devez commencer à comprendre ça. Ça ne vous semblait pas logique que nous, on puisse commencer une implantation d'église dans cette ville dépourvue d'église, dans une grande partie? Ça vous semble, c'est pas le moment, c'est pas logique, c'est pas... Ça n'a aucune importance. Quand Christ nous dit, jette les filets, on jette les filets. On suit son plan, on suit sa logique. Et lorsqu'une chose nous semble complètement absurde, nous sommes tout simplement ignorants. Nous sommes ignorants. Ézéchiel vient dans cette vallée des ossements desséchés. Voilà une vallée remplie d'os. Pas de cadavres. Parce qu'un cadavre, c'est quoi? C'est une personne morte pas depuis longtemps. C'est une personne dans laquelle la force de la mort a pu commencer la domination, mais pas l'amener jusqu'au bout. Parce qu'il a toujours sa chair, il a toujours son corps, même si ça pourrit. Mais quand on est dans une vallée d'ossements morts, on voit une situation où la mort a pu exercer sa domination jusqu'au bout. Il n'y a plus de chair. Il n'y a rien. Même les os ne sont plus liés les uns aux autres par les ligaments. Ils sont étalés sur une vallée. Et on voit, ah, c'est ça que la mort peut faire lorsqu'on lui laisse le temps de travailler. D'aller jusqu'au bout de ce qu'il peut. Et Dieu fait promener Ézéchiel là et il pose une question à Ézéchiel. Est-ce que ces os peuvent vivre? Ézéchiel est quand même prophète, il a vu des miracles. Mais là, il est dépassé. Et il dit, est-ce que ces os peuvent vivre? Tu le sais, Seigneur. Toi seul, tu sais la réponse. Ça, aucune idée, si même toi, tu peux faire ça. Alors, parle aux os. Et prêche. Et les os commencent à se mettre ensemble, les ligaments les joignent encore, mais il n'y a pas de chair. Et puis il dit, prêche ou prophétise au vent, prophétise aux ossements, prophétise au vent. Et dis au vent, prêche au vent, et dis, venez des quatre coins du monde et soufflez dans cette vallée. Comme le chrétien qui prie pour le souffle du Saint-Esprit, il parle. Saint-Esprit, il parle à Dieu, viens, et puis ça souffle dans la vallée, et la chair revient sur les ossements, il y a une gigantesque armée. Qu'est-ce que Dieu est capable de faire dans son dessein? Vous savez que un appel est toujours l'expression du plan de celui qui appelle, n'est-ce pas? Jean, viens à table! C'est l'expression du désir et du plan de la maman, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec le plan, les désirs de Jean. Peut-être il veut rester avec les potes, en train de jouer aux billes. Un appel est toujours l'expression du désir de celui qui appelle. Et nous réglons nos vies par le désir du Christ et ce qu'il pense faire et ce qu'il peut faire et comment il pense le faire. Donc, nous avons parlé de la puissance surnaturelle de l'appel de Dieu dans lequel Dieu nous fait entrer et le dessein merveilleux de Dieu dans lequel il nous fait entrer. On va terminer avec un troisième point. Quand Dieu nous appelle à son royaume et à son service, il nous appelle à un monde où la sainteté de Dieu et la grâce de Dieu s'embrassent. Et s'embrassant, règne sur le péché humain. Sauve. Et juge. Nous voyons cela dans le verset 8. Quand il vit cela, quand il vit la grande quantité de poissons, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. La première chose que Pierre réalise, c'est qu'il y a eu une invasion de la sainteté dans sa vie. Maintenant, Jésus ne lui a parlé d'aucun péché dans sa vie. Jésus n'a pas parlé de la sainteté de Dieu spécialement. Jésus a juste montré sa puissance transcendante et divine. Pourquoi est-ce que cela a amené une grande quantité de poissons, une puissance évidemment surnaturelle qui fait venir des poissons, qui contrôle les poissons? Comment est-ce que ça peut amener Pierre à une conscience, une prise de conscience qu'il est mauvais? Et une conscience, une prise de conscience très piquante. Retire-toi de moi, à genoux. Sans doute, c'est parce que chaque fois que l'homme rencontre le divin, a un contact proche avec Dieu tel qu'il est, dans n'importe quel aspect de son être infiniment transcendant et autre, l'homme est tout de suite complètement étonné. Et il réalise la distance infinie entre lui et Dieu, et il réalise, si Dieu est tellement merveilleux et glorieux, oulala, je lui ai jamais donné l'hommage qui sont dus. Je n'ai pas servi ce Dieu-là comme il le mérite. Oulala, j'ai pris Dieu à la légère, si Dieu est comme ça. C'est un peu ce raisonnement qui force la porte de notre cœur quand nous sommes en contact avec la grandeur de Dieu. Et sans doute, ce jour-là, c'était ça pour Pierre. Pierre réalise comme nous allons réaliser dès l'instant où nous voyons la gloire de Dieu à la fin du monde. Oh là 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 là. Quelle pitance de service et d'amour et de révérence j'ai donné à ce Dieu infiniment glorieux. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh la saleté, l'indignité de ma vie. Comment est-ce que j'ai pu pécher et oser désobéir aux ordres d'un Dieu si juste et pur? Et on va se voir comme sale. Ésaïe a eu la même expérience, n'est-ce pas? Quand il a vu l'Éternel dans le temple et les anges qui criaient « Saint, Saint, Saint », il a dit « Malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures ». Et je vous assure que l'appel de Dieu à le servir passe par là. Vous ne pouvez pas servir Dieu à moins de tomber à genoux, à moins de dire « Malheur à moi ». À moins de vous trouver, vous d'abord, le pécheur, vous ne pouvez pas aller vers d'autres pour leur dire qu'ils sont pécheurs. Les gens qui, dans les rêves du passé, ont pu prêcher avec une puissance qui a converti des milliers, sont des gens qui sont, quand vous lisez leur biographie, ils sont passés, eux, d'abord, par une expérience poignante de leur propre indignité et péché. Et c'est pour ça qu'ils ont pu parler de manière tellement forte aux autres. Parce que c'est une réalité. Ils savaient de quoi ils parlaient. Et je pense que lorsque Pierre est allé parler aux gens de Christ et du fait d'être pécheur, il avait quelque chose de réel derrière. Mais vous et moi, nous devons comprendre que lorsque Dieu nous appelle à son royaume et à son service, il nous appelle dans ce monde où nous comprenons, où nous voyons que Dieu est un Dieu saint, mais attention, j'ai pas fini le troisième point, un Dieu saint et un Dieu de grâce. Parce qu'on ne finit pas avec Pierre à genoux, se lamentant sur son indignité, le dernier mot est à Christ. Et c'est un mot de grâce. Nous lisons dans le verset 9. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédie, les associés de Simon. Et maintenant, sachant que Pierre avait dit, retire-toi de moi. Aucune relation n'est possible entre nous deux. Tu es trop saint. Je suis trop pécheur. Il est impossible que tu puisses te faire ami avec moi. Ce n'est pas possible. Jésus répondit, dit à Simon, ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'âme. Quel miracle! C'est un plus grand miracle que celui des poissons. Il y a deux miracles ce jour-là. Il y a les poissons, mais il y a un homme qui, de son propre aveu, est trop indigne pour servir le Christ. Mais le royaume de Dieu est le royaume de Dieu. Il est le Dieu autre, sa grâce est autre, sa miséricorde, son amour, c'est complètement différent. Ça dépasse tout ce que la pensée humaine peut attraper. Et dans ce royaume, nous n'obtenons pas dans la vie ce que nous méritons. Nous obtenons ce que le cœur d'amour de Dieu veut nous donner. Et il regarde ce bonhomme à genoux devant lui, sachant qu'il a raison, il est pécheur, il est indigne. Et il dit, ne crains point. Le cœur du Père et mon cœur sont remplis d'amour pour toi. Désormais, il est en train de changer son identité et son avenir par la grâce. Désormais, tu seras pécheur d'âme. Tu seras non seulement mon ami, mais mon instrument béni et privilégié. Et c'est toi qui vas amener d'autres pécheurs indignes dans le royaume de Dieu et dans la vie éternelle. C'est immense d'être amené par Christ dans un tel monde de grâce où Christ te dit, ne crains point, ne crains point, désormais tu seras mon serviteur. Et ce même Jésus dit à Pierre, la nuit avant sa mort, Pierre, Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié trois fois. Jésus sait tout sur Pierre. Son péché n'a pas cessé le jour de la grande pêche. Mais c'est le même Jésus, le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui dit en réponse à nous, lorsque nous disons « Impossible que je puisse être proche à toi. Impossible, impossible, retire-toi. » Le Seigneur dit « Non, je ne me retire pas. Ne crains pas. C'est une mauvaise crainte que tu as, qui demande l'éloignement de moi. Désormais, tu seras mon associé. » L'appel de Dieu. Un appel à expérimenter, être dans le monde d'une puissance surnaturelle. Un appel à venir dans un dessein merveilleux pour sauver une multitude d'âmes. Un dessein pour entrer dans le monde de sa sainteté et de sa grâce. Et ça veut dire qu'on ne peut plus être le même. On ne peut plus rester dans nos péchés. Et on ne peut plus rester dans notre condamnation. On est pardonné et on est changé. C'est vraiment merveilleux. Je me demande combien de fois Pierre a pensé à cet événement. Dans les années après, quand il était devant des situations difficiles, des impasses, des impossibilités. Ou des moments où il se sentait indigne. Mais je pense que ça devait être souvent. Juste pour être sûr que la leçon a été apprise, Jésus l'a fait une fois de plus après sa résurrection. Au début de l'appel de Pierre, au début de son association avec Jésus, et à la fin de son association avec Jésus, dans le ministère terrestre du Seigneur, il y a eu une pêche miraculeuse. Avec des centaines de poissons. La dernière fois, il n'avait pas vu Jésus pendant un certain temps, des jours, et Pierre dit, je vais aller pêcher. Est-ce qu'il voulait vraiment dire, je vais reprendre mon métier? Alors que Jésus lui avait dit, tu seras pêcheur d'âme. N'avait-il pas compris que les choses avaient changé pour toujours? Je ne sais pas. Mais s'il avait quelque part cette petite idée, Jésus l'arrêtait par une deuxième pêche miraculeuse. Et Pierre a la leçon au début et à la fin. Tu seras pêcheur d'âme par cette puissance surnaturelle qui est la mienne, par cette grâce et selon mon dessein. Restez-y. Nous allons chanter pour nous préparer pour la scène.
David.
Oui.